Alphonse Daudet, Un réveillon dans le marais, conte de Noël. Monsieur Majesté, fabricant d'eau de Seltz dans le marais, vient de faire un petit réveillon chez des amis de la place royale et regagne son logis en fredonnant. 2 heures sonnent à Saint-Paul. Comme il est tard, se dit le brave homme, et il se dépêche. Mais le pavé glisse, les rues sont noires, et puis dans ce diable de vieux quartier, qui date du temps où les voitures étaient rares, il y a un tas de tournants, d'encoignures, de bornes devant les portes à l'usage des cavaliers. Tout cela empêche d'aller vite, surtout quand on a déjà les jambes un peu lourdes et les yeux embrouillés par les toasts du réveillon. Enfin, Monsieur Majesté arrive chez lui. Il s'arrête devant un grand portail orné où brille au clair de lune un écusson d'or et de neuf, d'anciennes armoiries repeintes dont il a fait marque de fabrique. Hôtel ci-devant de Nesmont, Majesté jeune, fabricant d'eau de Seltz. Sur tous les siphons de la fabrique, sur les bordereaux, les têtes de lettres, s'étalent ainsi et resplendissent les vieilles armes des Nesmont. Après le portail, c'est la cour, une large cour aérée et claire, qui dans le jour, en s'ouvrant, fait de la lumière à toute la rue. Au fond de la cour, une grande bâtisse très ancienne, des murailles noires, brodées, ouragées, des balcons de fer arrondis, des balcons de pierre à pilastres, d'immenses fenêtres très hautes, surmontées de frontons de chapiteaux qui s'élèvent aux derniers étages comme autant de petits toits dans le toit, et enfin, sur le faîte, au milieu des ardoises, les lucarnes des mansardes, rondes, coquettes, encadrées de guirlandes comme des miroirs. Avec cela, un grand perron de pierre, rongé et verdi par la pluie, une vigne maigre qui s'accroche au mur, aussi noire, aussi tordue que la corde qui se balance là-haut à la poulie du grenier, je ne sais quel grand air de vétusté et de tristesse. C'est l'ancien hôtel de Nesmont. En plein jour, l'aspect de l'hôtel n'est pas le même. Les mots « caisse »,« magasin », »,« entrée des ateliers » éclatent partout en or, sur les vieilles murailles, les font vivre, les rajeunissent. Les camions des chemins de fer ébranlent le portail, les commis s'avancent au perron la plume à l'oreille pour recevoir les marchandises. La cour est encombrée de caisses, de paniers, de paille, de toiles d'emballage. On se sent bien dans une fabrique. Mais avec la nuit, le grand silence, cette lune d'hiver qui, dans le fouillis des toits compliqués, jette et entremêle des ombres, l'antique maison des Nesmont reprend ses allures seigneuriales. Les balcons sont en dentelle, la cour d'honneur s'agrandit, et le vieil escalier qu'éclaire des jours inégaux vous a des recoins de cathédrale avec des niches vides et des marches perdues qui ressemblent à des autels. Cette nuit-là, surtout, Monsieur Majesté trouve à sa maison un aspect singulièrement grandiose. En traversant la cour déserte, le bruit de ses pas l'impressionne. L'escalier lui paraît immense, surtout très lourd à monter. C'est le réveillon, sans doute. Arrivé au premier étage, il s'arrête pour respirer et s'approche d'une fenêtre. Ce que c'est que d'habiter une maison historique. Monsieur Majesté n'est pas poète, oh non, et pourtant, en regardant cette belle cour aristocratique, où la lune étant une nappe de lumière bleue, ce vieux logis de grand seigneur qui a si bien l'air de dormir avec ses toits engourdis sous leur capuchon de neige, il lui vient des idées de l'autre monde. Tout de même, si les Nesmont revenaient... À ce moment, un grand coup de sonnette retentit. Le portail s'ouvre à deux battants, si vite, si brusquement que le réverbère s'éteint. Et pendant quelques minutes, il se fait là-bas, dans l'ombre de la porte, un bruit confus de frôlement, de chuchotement. On se dispute, on se presse pour entrer. Voici des valets, beaucoup de valets, des carrosses tout en glace, miroitant au clair de lune, des chaises à porteurs balancées entre deux torches qui s'avivent au courant d'air du portail. En rien de temps, la cour est encombrée. Mais au pied du perron, la confusion cesse. Des gens descendent des voitures, se saluent, entrent en causant comme s'ils connaissaient la maison. Il y a là, sur ce perron, un froissement de soie, cliquetis d'épée, rien que des chevelures blanches, alourdies et mates de poudre, rien que des petites voix claires, un peu tremblantes, des petits rires sans timbre, des pas légers. Tous ces gens ont l'air d'être vieux, vieux. Ce sont des yeux effacés, des bijoux endormis, d'anciennes soies brochées, adoucies de nuances changeantes, que la lumière des torches fait briller d'un éclat doux. Et sur tout cela flotte un petit nuage de poudre qui monte des cheveux échafaudés et roulés en boucle à chacune de ces jolies révérences un peu guindées par les épées et les grands paniers. Bientôt toute la maison a l'air d'être hantée. Les torches brillent de fenêtre en fenêtre, montent et descendent dans le tournoiement des escaliers, jusqu'aux lucarnes des mansardes qui ont leur étincelle de fête et de vie. Tout l'hôtel de Nesmont s'illumine comme si un grand coup de soleil couchant avait allumé ses vitres. « Oh mon Dieu, ils vont mettre le feu !» se dit Monsieur Majesté. Et revenu de sa stupeur, il tâche de secouer l'engourdissement de ses jambes et descend vite dans la cour, où les laquais viennent d'allumer un grand feu clair. Monsieur Majesté s'approche, il leur parle. Les laquais ne lui répondent pas et continuent de causer tout bas entre eux, sans que le moindre vapeur s'échappe de leurs lèvres dans l'ombre glaciale de la nuit. Monsieur Majesté n'est pas content. Cependant, une chose le rassure, c'est que ce grand feu qui flambe si haut et si droit est un feu singulier, une flamme sans chaleur qui brille et ne brûle pas. Tranquillisé de ce côté, le bonhomme franchit le perron et entre dans ses magasins. Ces magasins du rez-de-chaussée devaient faire autrefois de beaux salons de réception. Des parcelles d'or ternies brillent encore à tous les angles. Des peintures mythologiques tournent au plafond, entourent les glaces, flottent au-dessus des portes dans des tanes vagues, un peu ternes, comme le souvenir des allées écoulées. Malheureusement, il n'y a plus de rideaux, plus de meubles. Rien que des paniers, de grandes caisses pleines de siphons à tête d'étain, et les branches desséchées d'un vieux lilas qui monte toute noire derrière les vitres. Monsieur Majesté, en entrant, trouve son magasin plein de lumière et de monde. Il salue, mais personne ne fait attention à lui. Les femmes au bras de leurs cavaliers continuent à minauder sérénieusement sous leurs pelisses de satin. On se promène, on cause, on se disperse. Vraiment, tous ces vieux marquis ont l'air d'être chez eux. Devant un trumeau peint, une petite ombre s'arrête, toute tremblante. « Oh, dire que c'est moi et que me voilà !» Et elle regarde en souriant une Diane qui se dresse dans la boiserie, mince et rose, avec un croissant au front. « Nesmont, viens donc voir tes armes !» Et tout le monde rit en regardant le blason des Nesmont qui s'étale sur une toile d'emballage avec le nom de Majesté au-dessous. « Ah ah ah, Majesté, il y a donc encore des Majestés en France !» Et ce sont des gaietés sans fin, de petits rires à son de flûte, des doigts en l'air, des bouches qui minaudent. Tout à coup, quelqu'un crie « Du champagne ! Du champagne !» Mais non, mais si, si, c'est du champagne ! Allons, comtesse, vite un petit réveillon ! C'est de l'eau de Cels de sa majesté qu'ils ont prise pour du champagne. On le trouve bien un peu éventé, mais bon, on le boit tout de même. Et comme ces pauvres petites ombres n'ont pas la tête bien solide, peu à peu cette mousse d'eau de Cels les anime, les excite, leur donne envie de danser. Des menuets s'organisent. Quatre fins violons que Nesmon a fait venir commencent un air de Rameau, tout en triolet, menu et mélancolique dans sa vivacité. Il faut voir toutes ces jolies vieilles tourner lentement, saluer en mesure d'un air grave. Leurs atours se sont rajeunis, et aussi les gilets d'or, les habits brochés, les souliers à boucles de diamants. Les panneaux eux-mêmes semblent vivre en entendant ces anciens airs. La vieille glace enfermée dans le mur depuis 200 ans les reconnaît aussi, et tout est raflé, noirci aux angles, elle s'allume doucement et renvoie aux danseurs leur image un peu effacée, comme attendrie d'un regret. Au milieu de toutes ces élégances, Monsieur Majesté se sent gêné. Il s'est blotti derrière une caisse et il regarde. Petit à petit, cependant, le jour arrive. Par les portes vitrées du magasin, on voit la cour blanchir, puis le haut des fenêtres, puis tout un côté du salon. À mesure que la lumière vient, les figures s'effacent, se confondent. Bientôt, Monsieur Majesté ne voit plus que deux petits violons attardés dans un coin et que le jour évapore en les touchant. Dans la cour, il aperçoit encore, mais si vague, la forme d'une chaise à porteurs, une tête poudrée, semée d'émeraudes, les dernières étincelles d'une torche que les laquais ont jetée sur le pavé et qui se mêle avec le feu des roues d'une voiture de roulage entrant à grand bruit par le portail ouvert.